RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Au Nigeria, l'élection en mars dernier du général Muhammadu Buhari à la tête du pays marque une première. Cette élection a retenu l'attention de la communauté internationale et des pays d'Afrique de l'Ouest qui jugent ce scrutin fiable et transparent. Mais cette élection symbolise surtout l'avènement d'une alternance démocratique. Pour la première fois depuis l'indépendance du Nigeria en 1960, l'opposition prend démocratiquement le pouvoir par les urnes. Le chef de l'État et son équipe, composée de plusieurs partis de l'opposition, affirment vouloir instaurer un changement basé sur la lutte contre la corruption. Le nouveau président veut faire de la bonne gouvernance le credo de toute une société, happé par des problèmes assez complexes, liés notamment au chômage et à l'insécurité. Alors, que signifie l'alternance démocratique pour les Nigérians moyens? Qu'espère-t-il du nouveau président, qui fut tant critiqué pour son passé d'homme de poigne aux commandes du pays dans les années 80? Nigeria, le temps de l'alternance, c'est un reportage de Binta Diagne, Binta que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Accoudé sur sa galerie vitrée de téléphone, James attend inlassablement de potentiels clients tout en gardant un œil sur ses trois enfants qui dorment à l'arrière de sa boutique. En vitrine, on trouve de tout, des téléphones portables de seconde main, des chargeurs, des batteries, des écouteurs. Ce jeune débrouillard a compris très tôt que la vente de téléphones portables pouvait bien avoir des débouchés.
Au tout début, lorsque c'était tout nouveau, ce commerce fonctionnait bien. C'était l'époque d'Obasanjo, entre 2007 et 2008. Mais maintenant, ça ne marche plus. L'argent ne circule plus dans le pays. Les gens qui pourraient avoir besoin d'un téléphone, ils se disent surtout qu'ils ont besoin de se nourrir d'abord. Cela affecte notre commerce parce qu'il faut manger à sa faim avant de penser à satisfaire d'autres besoins.
Seulement voilà, ce vendeur se heurte quotidiennement à de nombreux obstacles. James consacre une bonne partie de ses bénéfices à l'éducation de ses enfants et l'autre partie est phagocytée par les nombreuses charges de son commerce.
Pour louer un local, les propriétaires nous demandent de payer 2 ans d'un coup. C'est le cas de ma boutique. Le temps qu'elle soit rénovée, avant que je l'occupe, on m'a demandé d'avancer 2 années entières de location. Et cela, malgré le fait que j'avais déjà un commerce qui fonctionnait correctement. Je me suis finalement arrangé pour avancer 1 année de loyer. Et malgré tout cela, c'est compliqué encore de payer ces charges pour la plupart des commerçants comme moi, car notre business ne marche pas si bien que ça. Nous tous ici, nous passons notre temps à payer des factures. Et au bout du compte, on s'aperçoit qu'on ne travaille que pour payer les factures et qu'il ne nous reste plus rien pour nous.
Parvenir à payer un loyer, cesser de courir après des factures impayées, vivre de ses bénéfices, pour de nombreux commerçants du marché d'Hudson Alhaji, la priorité aujourd'hui, c'est de sentir une réelle amélioration de leurs conditions de vie suite à cette élection présidentielle. Les Nigérians n'ont pas le sentiment de bénéficier des fruits de la croissance. L'image des politiques corrompues suscite rejet et dégoût de toute une nouvelle génération qui veut profiter des ressources du pays. À l'image de Tiu Julius, un avocat agrippé au volant de sa voiture. À cause d'une pénurie de fuel qui touche Abuja de manière chronique, Tiu doit faire la queue pendant une matinée entière devant une station-service. Pour cet avocat, c'est un paradoxe inacceptable de la part d'un pays producteur de pétrole.
Nous avons du pétrole brut, mais c'est destiné à l'exportation, puis cela revient chez nous, plus cher, car nous n'avons pas une seule raffinerie. Quel bénéfice en tire-t-on? Si nous avions des raffineries, les jeunes auraient un travail. Mais ce n'est pas le cas, vous savez pourquoi? Parce que nos leaders ne sont pas fiables, ils ne sont pas honnêtes. L'intégrité est un vieux principe bafoué. Si vous étiez un leader politique, vous travailleriez pour tout le monde. Mais ici, dès que les politiques arrivent au pouvoir, ils pensent uniquement à la meilleure manière de s'en mettre plein les poches. La corruption est notre plus grand problème.
Sur cette lancée, ce juriste prône une sorte d'idéal, un nouveau type de leader politique intègre.
On cherche donc un leader au sens propre du terme, un homme nouveau qui va éradiquer la corruption, qui va mettre en valeur nos ressources, de sorte qu'un pays producteur de pétrole comme le nôtre ne souffre plus de pénurie. Ce leader politique va devoir travailler à partir de notre bureaucratie telle qu'elle est actuellement. Cela prendra du temps, mais cela nous est égal. Nous, tout ce que nous exigeons, ce sont des résultats.
But we don't mind the time. But all we want is results.
En marge de cet élan vers l'alternance, on trouve un mouvement citoyen, avec notamment des jeunes qui utilisent les blogs et l'Internet pour exprimer leurs opinions sur chaque dysfonctionnement de la société. Parmi eux figure Dotun Roy, un cyberactiviste qui a fait partie des quelques milliers d'observateurs bénévoles lors des élections.
De temps à autre, j'écris sur la politique, sur la pauvreté, sur le chômage. Je veux que les gens comprennent que l'on peut agir grâce à l'écriture. Cela peut mener au changement. On n'a pas besoin de sortir dans les rues et de manifester pour que les gens nous comprennent. Avec Internet, on peut créer un espace d'expression et inciter les gens à adhérer à notre cause. Cela me donne une voix, une chance de participer au changement.
Le changement, c'est le mot-clé de Mouhamadou Bouhari, élu avec plus de 54% des voix. Boubou bleu, lunettes rondes, la mine fière et assurée, le voici qui adresse ses premières intentions le jour de l'annonce de sa victoire.
Nous tournons une page d'histoire. Votre vote vient de changer la destinée de tout le pays. Votre vote a changé la destinée du pays. Je peux vous assurer que mon gouvernement sera à votre écoute. Mon administration saura répondre à vos attentes. J'ai choisi de faire de la bonne gouvernance l'une de mes priorités.
Dans l'entourage de ce président fraîchement élu, on mise sur les atouts de l'APC, la coalition du Congrès progressiste, qui est le fruit d'une fusion depuis 2013 de plusieurs formations de l'opposition. Sur le fond, l'équipe de Mouhamadou Bouhari embrasse l'essentiel des préoccupations sociales des Nigérians, notamment celle de la bonne gouvernance. Le symbole du parti, c'est ironiquement un balai traditionnel, comme pour marquer cette volonté de nettoyer les administrations de ces mauvaises pratiques. Alors que Bouhari prononce ses premiers mots de président élu, dans le QG de son parti, des jeunes forment une file indienne. Ils dansent et balaient le sol pour exprimer leur motivation à se débarrasser de la corruption, comme l'explique l'un d'eux, Abdulaziz.
We want to sweep corruption.
Nous voulons donner un grand coup de balai à la corruption et à la mauvaise gouvernance. Nous voulons tout remettre en ordre. Notre principal problème au Nigeria, c'est la corruption. Tous les secteurs sont affectés, les services de sécurité et de police, l'éducation, la santé. Les gens font ce qu'ils veulent et personne ne les en empêche. Donc nous espérons que l'APC va apporter du changement. Les organismes de contrôle doivent être indépendants pour mener à bien ce travail. C'est ainsi que les choses changeront.
Once they are independent, this will change.
Dans l'ombre, des hommes d'une certaine carrure soutiennent aussi ce combat, à l'image de Kabirou Ibrahima Gaya, qui a occupé le poste de sénateur à trois reprises pour représenter l'état de Kano, dans le nord du pays.
Lorsque j'étais sénateur, nous avons lancé des enquêtes sur la corruption, sur la gestion du pétrole et plein d'autres problèmes. Mais à chaque fois, le gouvernement de Jonathan n'était pas capable de mener à bout ces investigations. Des noms ont été cités, mais il n'y a jamais eu de poursuite. Cela a donc implicitement encouragé la corruption. Donc aujourd'hui, nous apportons du changement pour faire avancer ce pays.
La stratégie de l'équipe de Mouhamadou Bouhari, c'est aussi de cibler une jeunesse accro aux réseaux sociaux. L'idée, c'est de fédérer le plus de voix possible auprès des jeunes via Facebook, Twitter et les SMS. Une campagne invisible et douce menée par Konrad Opanachi Jacob, le coordonnateur national des réseaux sociaux de l'APC.
Les médias sociaux nous ont vraiment aidés dans notre campagne. C'était l'un de nos principaux moyens de mobilisation au sein de l'APC. Cela a vraiment pesé parce que le taux de pénétration du smartphone est important. Les militants sont accessibles par SMS plus facilement. Ils réagissent aussi via leur téléphone grâce aux médias sociaux. Ils reçoivent de manière continue les informations de notre parti, les informations sur nos rassemblements, etc. Donc les médias sociaux ont été pour nous un outil abordable pour toucher de nombreux électeurs.
Ancien général de l'armée, musulman du nord du pays, Mouhamadou Bouhari prend le pouvoir par la force en décembre 1983. Il reste alors un peu plus d'un an et demi à la tête du Nigeria. C'est à cette époque un homme de poigne qui veut redresser le pays, mettre de l'ordre dans la société. Un diplomate ouest-africain en poste dans les années 80 garde un souvenir positif de l'ordre imposé dans la ville de Lagos, capitale économique du pays. Aujourd'hui encore, ce caractère controversé de Muhammadu Buhari semble toujours séduire ses militants, Conrad Opanachi Jacob.
Le gouvernement était dirigé par des décrets militaires. Des lois étaient promulguées par des militaires pour sévir contre les citoyens qui outrepassent les règles. La société était tellement mal partie qu'il fallait contraindre les gens. À cette époque, Buhari a instauré ce que l'on nomme une guerre contre l'indiscipline. Plus personne n'osait couper les files d'attente. Plus personne n'osait insulter un homme en tenue. Plus personne n'osait corrompre les fonctionnaires. Tout cela a pourtant été monté en épingle contre Buhari lors de la campagne électorale. Mais il faut savoir qu'à cette époque, Buhari voulait remettre la société en ordre.
Que répondez-vous aux gens qui décrivent votre leader, Muhammadu Buhari, comme un dictateur ?
C'est vrai, il faut un homme de fer pour changer les mentalités. On a besoin de forcer les gens à se mettre dans les rangs. À cette époque, les militaires ont décidé de remettre l'économie en marche. Buhari était parvenu à stabiliser l'économie. Notre monnaie, le Naira, était stable. Buhari avait refusé d'appliquer la politique d'ajustement structurel telle qu'édictée par le Fonds monétaire international, ce qui aurait totalement dévalué le Naira.
Plus de 30 ans plus tard, cette personnalité suscite des appréciations variables. L'historien Hamzat Boukarou Yabara observe avec une certaine neutralité cette forme de mutation d'un général de l'armée qui endosse aujourd'hui les habits d'un démocrate.
Dans les années 80, il était à la tête d'une junte militaire comme il y en a eu pendant un certain nombre d'années au Nigeria, qui dirigeait le pays de manière autoritaire. Là, il est à la tête d'une coalition qui est une coalition politique. Donc il y a eu un certain nombre d'arbitrages au moment de la convention donc de l'APC en décembre, qui ont conduit effectivement à la désignation de Buhari comme candidat et d'Osinbajo ensuite comme candidat à la vice-présidence et aujourd'hui vice-président. Donc il y a sans doute la volonté de remettre en place un pouvoir fort qui change avec celui de Jonathan, qui était vu comme un président un peu léger, qui est arrivé au pouvoir un peu sur un malentendu.
Une personnalité forte pour surtout donner une place d'envergure dans la sous-région ouest-africaine. L'administration sortante de Goodluck Jonathan a été régulièrement critiquée pour son manque de dynamisme pour résoudre la question de Boko Haram, qui a semé la terreur et l'insécurité dans plusieurs états du nord-est du pays ces 6 dernières années. A l'inverse, Muhammadu Buhari, avec sa casquette de militaire, apparaît presque comme la solution à cette question. Chris Fomunio, le directeur de l'antenne Afrique du National Democratic Institute.
Il arrive au bon moment, je crois, et ça devrait renforcer davantage le travail sur le terrain. Parce que n'oublions pas qu'il va falloir à long terme mener une politique de développement de la zone pour empêcher à ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, on se retrouve en face d'une autre émergence de Boko Haram. Donc je crois qu'avoir comme président du Nigeria quelqu'un qui est musulman, qui parle la langue locale, par exemple le Hausa, qui est pratiqué dans le nord du Nigeria, mais qui est aussi pratiqué au Niger, comme au Tchad, comme au nord du Cameroun d'ailleurs, ça va faciliter beaucoup de contacts dans la sous-région et ça va faciliter quand même des politiques multinationales allant dans le sens de développer la zone et de mettre vraiment fin de façon définitive à cette crise de Boko Haram.
Mais pour d'autres observateurs de la scène politique nigériane, cette alternance s'annonce moins prometteuse que prévu. Isé Onyekpere dirige le Centre pour la justice sociale. Pour ce chercheur, la corruption et l'impunité sont tellement bien ancrées qu'il serait bien difficile de percevoir des changements dans les pratiques.
De toute évidence, rien n'a réellement changé entre le Buhari des années 80 et celui qui a remporté l'élection cette année. Et ce, malgré le fait qu'il ait récemment déclaré s'être mué en un démocrate. C'est toujours le même dictateur qui doit en plus avoir des opinions figées du fait de son âge avancé. Donc Buhari n'est pas tellement une alternative. D'un côté, il y a l'administration laissée par Jonathan qui est extrêmement corrompue. Ses proches ont détourné des milliards de dollars issus de la manne pétrolière. Toutes les personnes qui se sont ouvertement enrichies ainsi, et c'est le cas d'anciens gouverneurs, n'ont pas été inquiétées par la justice.
L'éducation, le chômage, l'accès à l'électricité, les attentes sociales sont importantes. L'administration de Bouhari aura seulement 4 ans pour y répondre. Nigeria, le temps de l'alternance, un reportage de Binta Diagne, réalisé par Jérémy Besset.
It is selfishly designed that the rich get richer and the poor strive to survive. It is such a shame in this world of abundance. Dolo one don't get no titali can cuckoo. Money aye le, money aye shuru. Oma aye le, ma aye le, aye le. Money aye le, money aye shuru. Oma aye le, ma aye le, aye le.
Binta Diagne, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. La communauté internationale avait les yeux rivés sur ce pays, ce Nigeria, parce qu'elle redoutait des violences entre militants. Comment peut-on expliquer que cette alternance se soit produite sans heurts ?
Eh bien, en fin de campagne, le président sortant, Goodluck Jonathan, a multiplié les messages d'apaisement. Il a ouvertement dit que les fauteurs de troubles seraient sanctionnés par la justice. Il a surtout signé un accord avec Muhammadu Buhari pour s'engager à respecter le verdict des urnes. Parmi les raisons qui expliquent cette attitude, on évoque notamment des menaces brandies par la Cour pénale internationale qui aurait affirmé suivre de très près ce qui se passe au Nigeria. Ce message pourrait bien avoir eu un effet dissuasif. C'est en tout cas la première fois que ce pays connaît une alternance démocratique et pour plusieurs observateurs, eh bien, c'est une bonne chose pour la maturation des partis politiques. Le PDP, donc le parti de Jonathan, sera plus apte à contrôler l'action gouvernementale des gens au pouvoir, estime par exemple Chris Fomunio, le responsable Afrique du NDI.
Alors on l'a entendu dans votre reportage, très clairement encore, les attentes sociales sont nombreuses. Alors quelle est dans tout cela la priorité de l'équipe du nouveau président ?
Eh bien, Bouhari a fait sa campagne sur la lutte contre la corruption. Il veut profiter de son mandat pour instaurer la bonne gouvernance dans les administrations. Dans un discours tenu à la Chatham House à Londres en début d'année, Bouhari promet de garantir plus de marge de manœuvre aux organismes étatiques de contrôle, de leur laisser plus d'indépendance et d'autorité afin que ces instruments puissent agir en cas d'infraction à la loi. Pour ce qui est des réponses concrètes à toutes ces interrogations sur l'économie et le social, il n'a pour le moment pas donné plus de détails sur ces premières actions. Bouhari les exposera très certainement le 29 mai prochain au moment de son investiture.
Alors l'autre priorité, c'est justement de résoudre ce problème d'insécurité.
Oui, une bonne partie du nord-est du pays est paralysée par l'insécurité liée à Boko Haram. Plusieurs villes et villages ont été sérieusement détruits. Il y a à ce jour plus d'un million de personnes déplacées à cause des violences de Boko Haram. Et depuis le début du mois de mars, l'armée connaît une avancée rapide sur le terrain. Elle affirme avoir repoussé les éléments de Boko Haram dans plusieurs localités, notamment à Gouaza, qui est assez symbolique comme localité puisque le groupe islamique affirmait y avoir imposé un califat l'année dernière. Ces derniers jours, l'armée continue ses opérations de ratissage dans la zone, opérations au cours desquelles elle affirme avoir tué certains leaders terroristes. Elle mène en tout cas depuis quelques jours des opérations militaires dans la forêt de Sambisa, qui fait partie des fiefs de Boko Haram.
Alors Muhammadu Buhari est un ancien général de l'armée et à ce titre, il semble pouvoir donner une réponse à ce problème, justement.
Oui, Laurent, Bouhari est surtout issu du nord du pays. Il connaît bien les problèmes de cette région. Il serait susceptible d'apporter, à ce titre, des réponses économiques et sociales pour ces régions qui manquent de tout, d'infrastructures, de services sociaux de base et surtout d'emplois pour les jeunes. Lors de sa campagne électorale, Bouhari a promis de mettre l'armée dans de meilleures conditions, ce qui pourrait bien jouer, Laurent, sur le moral des troupes.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter sur
RFI.fr.
Binta Diagne, merci beaucoup. Bonne journée.
L'épopée des musiques noires. Trop long.